Vous savez tous que le football est un jeu collectif. Et certaines victoires sont remportées tout simplement parce qu'un joueur a tapé dans le ballon et l'a passé à un autre. Hein ? Dimanche dernier, Michel a tapé dans le ballon de la doctrine. Et il y a un point, enfin, c'est le ballon que j'ai reçu en pleine figure, sur lequel je me suis dit, tiens, ça, c'est important, ça vaut la peine de le creuser, pour essayer de marquer un but. Espérons-le. Hein ? Ou alors il a fait un essai, et puis je vais essayer de le transformer. Ça, c'est le rugby. N'est-ce pas ? La phrase que j'ai retenue, c'est ce point de doctrine qui insiste sur la venue dans la chair de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans la chair. Pourquoi Jean lui donne-t-il une telle importance ? Pourquoi en fait-il une question aussi déterminante ? Qui sont les personnes visées sous le terme d'Antichrist dans sa lettre ? Ses adversaires, ses faux prophètes, dont il faut se séparer et ne même pas saluer. Vous vous rendez compte ? C'est pas rien. Alors, on va faire quelques lectures. Dans ces lettres de Jean, les épîtres de Jean, au chapitre 1er d'abord, verset 2, 1 Jean 2, verset 18 à 23. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. En fait, il faudrait traduire antichrist. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Certaines traductions traduisent ainsi le verset 23. Quiconque divise Jésus, divise le Fils, en lui donnant deux natures, une humaine et une divine. Enfin, on va développer ça plus tard. Au chapitre 4, verset 1, toujours dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1er. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Toujours dans la même lettre, au chapitre 5, maintenant, verset 7. Alors là, il y a une petite difficulté, certains manuscrits ne comportent pas la première partie du verset 7, mais je la lis quand même. « Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et enfin, nous allons dans la deuxième lettre de Jean, le verset 7. Vous savez que cette deuxième lettre n'a qu'un chapitre. Le verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Un langage un peu particulier pour nos oreilles modernes, n'est-ce pas? Les trois épîtres de Jean sont adressées à des communautés d'Asie mineure qui étaient aux prises avec des enseignants qualifiés par Jean de faux prophètes ou d'antichrist. Jean désire prévenir et protéger ces communautés, les communautés qui relevaient de son autorité. On sait qu'il y a une certaine de grands mouvements d'église, n'est-ce pas, dans le Proche-Orient et le monde gréco-romain. Il y a les églises qu'on appelle les églises de Paul, qui relèvent de l'autorité de l'apôtre Paul, qu'il a fondé souvent, les plus nombreuses. Et puis, il y a les églises johanniques, les communautés du disciple bien-aimé, qui se trouvaient en Asie mineure et dont on a la mention d'un certain nombre dans l'Apocalypse, les lettres aux sept églises, n'est-ce pas? C'était, toutes ces églises reconnaissaient particulièrement une autorité dans l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, semble-t-il, c'est lui. Donc il veut protéger ces communautés et les maintenir dans ce qu'ils avaient entendu dès le commencement, c'est-à-dire dès le commencement, non pas du monde, mais de la prédication de l'Évangile, au commencement de leur vie chrétienne, dans la foi, ce qu'ils ont reçu de la prédication des apôtres. D'ailleurs, le verbe « demeurer » revêt une grande importance. Il apparaît plus de 20 fois dans les épîtres de Jean, sans compter le verbe « garder sa parole »,« garder ses commandements ». C'est un appel à rester vraiment ancré, enraciné dans ce qu'ils avaient entendu de la prédication de l'apôtre. Jean entend sauvegarder ce qu'il estime être le cœur même de l'Évangile, la bonne nouvelle du Dieu venu en Jésus-Christ, s'investir totalement dans nos limites par amour. Ce qui fait l'originalité absolue du christianisme, c'est qu'aucune autre spiritualité du monde, dans l'histoire des religions, n'a pu imaginer cette venue dans la chair d'une divinité. Aucune. Certes, on a imaginé autrefois que des dieux du monde gréco-romain fassent des incursions parmi les mortels. Ça, c'est toute la mythologie grecque que tous les étudiants en philosophie ont eu l'occasion de lire. Ces dieux qui apparaissent, qui se marient, qui se jalousent, qui se combattent, qui jouent avec les humains comme un joueur d'échecs. N'est-ce pas? On a connu tout ça. Mais ces divinités ne connaissent pas vraiment les limites d'un simple être humain. Ils s'en moquent même. Ils jouent avec leur destinée sans miséricorde, sans projet à long terme. L'époque de la Renaissance a redécouvert cette antiquité mythologique et nombre d'œuvres musicales baroques s'en inspirent. On peut penser aux opéras de Handel ou bien de Lully, de Rameau, si vous connaissez cela. Ces deux derniers compositeurs dédiant leurs opéras à la gloire du dieu soleil. qui ne se prenait pas pour la queue de la poire, mais pour le représentant de Dieu sur terre. Ben tiens, il y avait beaucoup d'obséquiosité dans ces opéras, surtout dans les prologues, où on célébrait la sagesse du grand roi Louis, la justesse de ses lois, etc. Tout ça, c'était magnifié. La musique est très belle, mais les paroles sont stupides. Voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas seulement l'imagination des hommes qui ont fait descendre les dieux parmi les hommes et qui ont donné naissance à ces doctrines. C'était des doctrines. Mais il y a eu aussi l'influence des démons qui inspirèrent des spiritualités trompeuses, cruelles. Quand on pense à ce que certaines religions sont capables d'exiger, les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants, ou d'autres choses encore horribles, on ne peut qu'y voir l'empreinte des esprits démoniaques. Et je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, mais Israël apparaît vraiment comme une intervention providentielle de Dieu dans l'histoire du monde pour épargner ce peuple de toutes ces influences-là et préparer ainsi, par lui, la venue de Jésus. N'est-ce pas ? Au premier siècle, le gnosticisme, le gnosticisme, qui est un courant de doctrine du salut par la connaissance et l'initiation au mystère, ce gnosticisme commence à contaminer certains milieux chrétiens. Et quelques siècles plus tard, il jouera un rôle certain dans la naissance de l'islam. L'islam qui prétend que celui qui est mort sur la croix, ce n'est pas vraiment Jésus. Il divise Jésus. Et c'était exactement dans la droite ligne de cette gnose. Gnose, en grec, c'est la connaissance. Hein. Cette sagesse prétendument salvatrice, eh bien, c'était donc une façon de nier une totale humanité de Jésus. Et l'islam le fait. Mais avant lui, d'autres milieux qu'on appelait aussi les docètes. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. C'est ainsi que dans toute la littérature apocryphe chrétienne, qui va de la fin du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, toute cette littérature apocryphe chrétienne, on refuse l'idée que Dieu puisse revêtir pleinement notre nature humaine. Je vous donne juste un exemple dans l'évangile de Thomas. Est-ce que vous avez entendu parler de cet évangile ? On voit l'enfant Jésus, tout petit, capable de faire des oiseaux en argile, taper des mains, puis les oiseaux s'envolent. Ou un autre enfant qui le bouscule, il maudit cet enfant qui l'a bousculé, et l'enfant meurt, le père n'est pas content, il va voir Joseph, enfin. Des histoires totalement loufoques, mais c'est un courant qui se répandait parce qu'on n'admettait pas, on n'arrivait pas à admettre ce Jésus-Christ venu dans la chair, totalement. Que Dieu vienne s'abîmer chez nous. Quand on dit qu'un navire fait naufrage, on dit qu'il s'abîme, il descend dans les abîmes. Eh bien, c'est ce qu'a fait Dieu en Jésus-Christ. Il est venu s'abîmer en mort, pourrions-nous dire. Refuser cela, c'est rester prisonnier d'une vision désespérante de l'histoire. Cyclique, rien ne change, c'est l'éternel recommencement. L'éternel retour du même, sans fin et sans espoir. Voilà où mène le refus de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair. On a un exemple frappant dans le livre des Actes, au chapitre 14. Luc raconte la réaction des foules de Lystre, les Lycaoniens, témoins de la guérison d'un infirme. Que dit la foule ? Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Vous savez que le dieu Mercure est représenté avec des ailes aux pieds. C'était le dieu messager. Et comme c'est Paul qui parlait, c'est un dieu inférieur à Jupiter, hein, Mercure. Donc, il mettait les choses à rebours et il voulait leur offrir un sacrifice. Ils ont amené un taureau. Barnabas et Paul eurent toutes les peines du monde à empêcher la foule de leur offrir ce sacrifice. Et ça se termine pour Paul par une émeute et une lapidation le lendemain. La foule bascule d'une quasi-idolâtrie de ces hommes à un rejet violent. Ils ont lapidé Paul et l'ont laissé pour mort. Mais Paul a pu s'en sortir entouré par les chrétiens. Ce jour-là, Paul est vraiment sur les traces de son Seigneur. L'Évangile, donc, se fonde sur ce paradoxe, ce que j'appellerais une contre-performance absolue. Voilà sur quoi se fonde l'Évangile. Un échec, une contre-performance absolue, Jésus-Christ venu dans la chair. La seule différence avec nous, c'est que Jésus n'a pas connu le péché. Il disait, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Il y a aussi cette déclaration de Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà une parole forte, une parole à la limite sacrilège, mais c'est la vérité. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Luther disait, « Jésus, je suis ton péché et tu es ma justice devant Dieu. » Alléluia. Nous avons été crucifiés avec le Christ, parce qu'il s'est fait chair. Il est venu dans la chair. Nous avons donc été crucifiés avec le Christ. Il ne s'agit pas d'une mortification progressive. Il ne s'agit pas de se torturer. Autant tuer un âne avec un béret basque. Ça prend du temps. Nous avons été crucifiés tous, nous. Nous sommes morts, vous le saviez. Et Paul continue, si je vis, ce n'est pas moi. C'est le Christ qui vit en moi. Et comprenons bien ceci. C'est notre situation devant Dieu, au regard de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il voit son Fils, bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Voilà comment Dieu te voit. C'est ta situation. Il ne s'agit pas de te dire, est-ce que je suis assez crucifié? On l'est ou on ne l'est pas. Hein. Je crois que là, c'est radical. Hein. Est-ce que je suis assez mort à moi-même? Il y a eu des bouquins de sanctification qui ont été écrits, fort culpabilisants. Il faut que nous comprenions la chose. C'est important. Jésus-Christ est venu dans la chair. Et tout ce qu'il a vécu jusqu'à sa crucifixion, il l'a vécu pro nobis, pour nous, pour moi. C'est pour toi, pour toi, pour toi. Jésus-Christ venu habiter chez nous. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu pour être notre frère. Sans cela, sans cette confiance, sans cette compréhension des choses, l'Évangile ne serait rien d'autre qu'un mythe de plus. Un mythe sans puissance, sans espoir. Voilà pourquoi Jean lutte vigoureusement pour que les églises restent, pour qu'elle demeure hein, par 20 fois on trouve ce mot, pour que les églises demeurent fermes sur cette doctrine, sur ce fondement. Je vous propose quelques lectures maintenant dans la lettre aux Hébreux. Ce ne sera pas très long, mais c'est quand même une épître qui développe ce thème à sa manière. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants, alors il fait allusion au verset précédent, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». C'est le grand prêtre qui vient devant Dieu avec son propre sang. Et, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire nous, toi, moi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Je voudrais juste rappeler que l'expression « la chair et le sang », c'est une expression totalisante, globalisante, qui exprime la totalité de l'être humain. Comme les cieux et la terre expriment la totalité de l'univers. Donc les enfants sont totalement humains, totalement. Eh bien, il y a aussi participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. Rendu semblable en toute chose à ses frères et à ses sœurs, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Quelle espérance pour nous! Quelle consolation! N'est-ce pas? De savoir qu'on n'a pas un Christ qui plane au-dessus de nous, mais qui est vraiment en nous, qui a l'expérience de la vie humaine, toute simple, toute fragile, toute exposée aux tentations qu'elle soit, il a partagé cela. Vous pouvez croire ça? C'est le paradoxe qui fonde l'Évangile. Chapitre 4 de cette même lettre aux Hébreux, verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Je lis le suivant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il compatit avec nous. Compatir, compassion, c'est-à-dire souffrir avec. Quand nous souffrons, il souffre avec. Il sait ce qu'est l'expérience humaine de la souffrance, qu'elle soit morale, physique, de quelque nature qu'elle soit. Il sait, il l'a vécu. Tous nos chemins portent ses empreintes. Même le dernier de nos chemins, celui qui nous amène sous la terre, ils sont marqués de son empreinte. Nous ne sommes pas en terre inconnue. Nous sommes chez lui, tout le temps, partout. Nous sommes chez lui. Nous ne sommes pas des apatrides. Je lis encore un passage dans le chapitre 5. Toujours de cette même lettre aux Hébreux, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, certains traduisent des hurlements et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, là on voit la résurrection, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a appris l'obéissance. Il a fait un apprentissage. On a tellement l'habitude, quand on parle de Jésus dans l'Évangile, de voir un Christ qui sait tout, qui sait tout d'avance. Moi, je crois que Jésus a appris beaucoup de choses depuis sa naissance, mais encore dans son ministère. Il a appris des choses. Je sens chez lui comme un étonnement quand il découvre la foi d'une femme syrophénicienne ou d'un centenier. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il découvre. Et quand il va à l'étranger, où il se passe des choses étonnantes par son ministère, et qu'il revient en terre d'Israël, et qu'il revient à Jérusalem, et qu'il voit le temple, qu'il voit les vendeurs de pigeons, d'animaux. Pour moi, à ses yeux, le temple a pris un coup de vieux. Il est même frappé d'un verdict de mort. Et il le dit à travers l'épisode du figuier. Il visite le figuier comme il visite le temple. Il a faim. Il ne trouve que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Pourquoi s'en prend-il donc à ce pauvre figuier, sinon pour dire quelque chose qui concerne, au-delà du figuier, l'ancien régime du temple? Et il dit que personne, plus jamais, ne mange de ton fruit. Et selon certains récits, le figuier sèche à l'instant, d'autres c'est le lendemain que Pierre remarque. « Oh, regarde !» Pourquoi ? Parce qu'il est venu dans la chair pour accomplir le nouveau temple, le nouveau culte. Il est venu dans la chair pour que s'accomplisse la justice de Dieu d'une manière définitive. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de se souvenir de Jésus-Christ venu dans la chair. Le mot « chair » évoque bien sûr le corps humain, mais pas seulement. Il nous dit ici aussi les limites. Il nous dit notre inscription dans l'histoire, dans l'espace, dans le temps. Le mot « chair » dit aussi la fragilité, la dépendance, la faiblesse, la pauvreté, toute la condition du mortel. Quand Paul parle de la naissance de Jésus de Marie, de la Vierge Marie, il n'insiste pas tellement sur le fait qu'elle soit Marie, Vierge, etc. Ce n'est pas tellement ça qui l'intéresse. Il dit simplement, il est né d'une femme, née sous la loi. Voilà ce que Paul dit. C'est son Noël. C'est plutôt lapidaire, non ? Né d'une femme, née sous la loi. Il ne se focalise donc pas sur la naissance miraculeuse, mais il insiste sur l'économie sous laquelle Dieu est venu chez nous, dans notre basse condition, sous la loi. Le très haut est devenu le très bas. Luther disait, « Mon cher, si tu veux rencontrer Dieu, n'escalade pas le ciel, va donc à Bethléem. » Nous sommes sauvés par la puissance de cette faiblesse. Nous sommes sauvés par la faiblesse du Dieu manifesté dans un corps crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les Grecs. Mais pour nous qui sommes sauvés, sagesse et puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. y a un verset de Paul qui dit « Il a été crucifié à cause de sa faiblesse ». On hésite parfois à parler de la faiblesse de Dieu, la faiblesse du Christ crucifié comme moyen du salut. Mais c'est parce que nous sommes tellement habitués à une autre logique. Nous sommes habitués à la logique de l'escalade, toujours plus fort, toujours plus méchant, toujours plus riche, toujours plus, toujours plus. Alors que Dieu, lui, s'est, en Jésus-Christ, laissé abîmer dans notre mort. Voilà le paradoxe. Parce qu'il est venu parmi nous, nous pouvons être accueillis chez lui. Croisement des destinées. Nous pouvons être accueillis chez lui dans la maison du Père où il y a beaucoup de demeures. Il nous y a préparé une place. Il n'est pas en train de nous préparer une place, comme disent certains. Il est remonté au ciel nous préparer une place. Alors on espère un trois pièces avec salle de bain, salon, cheminée. Voilà, on n'est pas là pour faire la prospective immobilière. Jésus nous a préparé une place quand il est mort. C'est par sa croix qu'il nous ouvre le ciel. Elle est comme la clé qui ouvre le ciel. Je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, hein. Je m'en vais. Ça ne veut pas dire l'ascension, ça veut dire la mort. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai. Il est ressuscité, il les a retrouvés, il les a pris avec lui. Je veux que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Pas dans le ciel tout là-haut bientôt, mais maintenant, dans la communion du Père et du Fils, par la puissance de l'Esprit. Et voilà pourquoi nous pouvons bénéficier de toute la richesse de sa maison. Quand on a compris ça, on pète le feu, excusez-moi. On devrait. Parfois, il y a plus de fumée que de feu. Parce qu'il est venu dans la chair, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Jésus parlait de son corps comme du temple. Vous vous rappelez ? Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Eh bien, nous, à notre tour, notre corps est devenu temple du Saint-Esprit. Ça change beaucoup de choses sur la façon dont nous nous regardons ou dont nous regardons les autres. Parce qu'il est venu dans la chair, nous pouvons compter sur sa compassion et sa miséricorde. On l'a lu. Parce qu'il est venu dans la chair, nous pouvons être secourus dans nos besoins, vaincre dans nos tentations. Parce qu'il est venu dans la chair, nous pouvons aussi refuser toute fatalité au malheur qui assaille l'humanité. Sa venue a introduit la puissance du dernier jour au sein de notre histoire. Notre histoire est désormais enceinte de l'espérance, de la gloire, du royaume de Dieu à venir. Nous n'en avons pas l'impression, mais nous devons apprendre à regarder les tourments qui affligent notre monde comme les douleurs d'un enfantement. L'histoire de notre monde est grosse de la présence mystérieuse et secrète du royaume. Jésus a dit une petite parabole pour expliquer cela. C'est une femme qui prend du levain qu'elle introduit dans 3 mesures de farine. C'est assez gros, hein, il faut des bons biceps pour pétrir 3 mesures de farine. Le royaume de Dieu, c'est comme du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. D'une façon, je dirais, un peu ironique, Jésus est venu pourrir l'histoire, la faire lever, comme un levain. Et la présence des chrétiens dans la société, leur témoignage, leur prière, leur service, leur prédication, leur prophétie, contribue à faire lever la pâte, à faire mûrir l'histoire vers le royaume de Dieu, vers l'accomplissement total de ce que Dieu a décidé de toute éternité, tout récapitulé dans le Christ, les choses qui sont en haut, les choses qui sont en bas, afin de remplir toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voilà ce qui découle de cette venue dans la chair, cette petite doctrine de rien du tout, apparemment, mais qui dit tout. Parce qu'il est venu dans la chair et qu'il est monté vers le Père à travers sa mort et sa résurrection, Paul peut écrire à des Corinthiens stupidement partisans de tel ou tel serviteur de Dieu. Il leur dit ceci, « Tout est à vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Voilà ce que Paul peut écrire. L'important, c'est le Christ et non ses serviteurs. C'est un élargissement de notre vision des choses. Parce qu'il est venu dans la chair, nous trouvons un puissant encouragement, une vraie consolation, une source spirituelle intarissable, l'esprit répandu en fleuve d'eau vive, parce qu'il est venu dans la chair. Il a rendu l'humanité possible pour Dieu, et il a rendu Dieu possible pour nous. Nous trouvons la force d'aimer, nous trouvons la force de pardonner, nous trouvons la force d'accueillir. Voilà ce qui implante durablement l'Église comme signe du règne de Dieu en plein cœur de notre monde. Amen. Merci Seigneur pour ta venue dans la chair. Merci pour cette lumière qui trace pour nous l'horizon et qui éclaire notre chemin. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons vraiment nous appuyer sur toi. Nous te louons, Père, car ce que tu avais décidé de toute éternité, tu l'as mis en œuvre, tu l'as accompli. Et ce matin, nous voulons mesurer le privilège de te connaître, mais aussi te demander de nous aider à le partager avec les autres. Père, merci, merci, au nom de Jésus. Amen.
L'apôtre Paul dit que nous pouvons continuer à nous nourrir de lait toute notre vie spirituelle durant, mais que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions aussi nous nourrir de viande, c'est-à-dire de pouvoir rentrer là aussi dans toutes les dimensions de Dieu. Et ce matin, ce que Laurent nous a proposé, ce sont des points essentiels de la foi. Lorsque j'étais à un moment donné démarché par les témoins de Jéhovah, j'avais accepté, sans dire qui j'étais, de recevoir un témoin de Jéhovah disant « mais à ce moment-là, on prend l'écriture ensemble, on la cherche, on la fouille, on travaille. » Et puis ça a duré quelques mois, jusqu'au moment où le responsable des témoins de Jéhovah du coin a frappé à la porte avec lui un jour, on avait rendez-vous, et a dit « je ne peux plus vous le laisser avec vous parce que vous êtes en train de le déstabiliser et ce n'est pas juste. » Et le premier point sur lequel nous nous soyons arrêtés et que nous ayons abordé, c'était la présence de Christ en tant que Dieu prenant chair pour les hommes. C'était l'introduction de l'évangile de Jean. Et j'avais pris ma Bible et en préambule, j'avais dit « Vous prenez votre Bible, je prends la mienne, à armes égales. » Et puis s'il y a un désaccord, on se réfère au texte grec. Et le témoin de Jéhovah avait dit oui, ça me semble juste. Et quand on a commencé à travailler l'introduction de l'évangile de Jean, le prologue, tout de suite, évidemment, s'est trouvée la divergence autour de la divinité de Christ, le fait qu'il soit pleinement Dieu. Ce que nous avons entendu ce matin, c'est un point essentiel C'est le centre même de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est Dieu qui se fait homme. On a travaillé il y a quelque temps sur la dogmatique de Karl Barth qui aborde cette question de manière tellement forte. Et alors, soit on le prend comme un point de doctrine sec, soit on découvre le mystère de l'évangile, la puissance de la grâce et de l'amour de Dieu au travers de ce point. Dieu, j'ai bien aimé cette pensée, dans sa faiblesse, ou la faiblesse de Dieu, c'est son amour pour l'homme. Et il s'est fait homme à cause de son amour. Voilà, que ces paroles que nous avons reçues ce matin puissent construire en nous, là aussi édifier en nous, l'homme et la femme de Dieu que nous sommes appelés à être. Je voudrais solliciter Francine. Est-ce que Patricia, je n'ai pas demandé, mais est-ce que toutes les deux vous voulez bien vous préparer pour servir le repas du Seigneur? J'aimerais lire là aussi un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe et qui parle de